Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée dimanche 25 octobre, notamment par la prière mariale de l'Angélus, durant laquelle le pape a annoncé le prochain consistoire. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Cameroun, aux Seychelles et au Nigeria, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Au terme de la prière mariale de l'Angélus, dimanche 25 octobre, le pape a annoncé la tenue d'un consistoire ordinaire le samedi 28 novembre, à la veille du premier dimanche de l'Avent, afin de créer 13 nouveaux cardinaux. Deux cardinaux appartiennent à la curie romaine. Il s'agit de Mgr Mario Grech, secrétaire général du synode des évêques, et de Mgr Marcello Semeraro, préfet de la congrégation pour la cause des saints. Le pape a uni à eux 6 évêques de l'Église dans le monde. Il s'agit de Mgr Antoine Kambanda, archevêque de Kigali au Rwanda, de Mgr Wilton Daniel Gregory, archevêque de Washington aux États-Unis d'Amérique, Mgr José Fuerte Advíncula, archevêque de Capiz aux Philippines, Mgr Celestino Aos Braco, archevêque de Santiago du Chili, Mgr Cornelius Sim, vicaire apostolique de Brunei, Mgr Augusto Paolo Lo Giudice, archevêque de Sienne, Colle di Val d'Elsa, Montalcino, en Italie. À leur côté, le pape a décidé de créer cardinal le frère Mauro Gambetti de l'ordre des frères mineurs conventuels, actuel custode du couvent des franciscains d'Assise. Outre ces 9 cardinaux, François a également décidé de conférer la barrette cardinalis à 4 autres prélats âgés de plus de 80 ans et qui ne seront donc pas électeurs en cas de conclave. Il s'agit de Mgr Felipe Arismendi Esquivel, archevêque émérite de San Cristobal de las Casas au Mexique, de Mgr Silvano Tomasi, nonce apostolique, ancien observateur du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève et actuellement détaché auprès du Dicaster pour le service du développement humain intégral, du père Raniero Cantalamessa, moine capucin et prédicateur de la maison pontificale, ainsi que de Don Enrico Ferrucci, recteur du sanctuaire du divin amour près de Rome. Avant la prière de l'Angélus, François a proposé un commentaire de l'évangile du jour, où Jésus explique en quoi consiste le grand commandement « Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et son prochain comme soi-même ». Il s'agit là de 2 piliers essentiels de la vie du croyant qui authentifient son chemin de conversion et de sainteté. Autrement dit, a expliqué le Saint-Père, l'amour de Dieu qui ne s'exprime pas dans l'amour du prochain n'est pas vrai, et de la même manière, l'amour du prochain qui ne puise pas dans la relation avec Dieu n'est pas vrai. Cette perspective aide à mieux saisir la parole de Dieu. Tous les commandements servent à actualiser et à exprimer ce double et indivisible amour. L'amour pour Dieu s'exprime surtout dans la prière, en particulier dans l'adoration, a précisé François, en insistant sur ce type de prière souvent délaissé. Et l'amour fraternel, expression de la charité, est quant à lui fait de proximité, d'écoute, de partage, de soin de l'autre. Au terme de l'Angélus du dimanche 25 octobre, le pape a exprimé sa préoccupation particulière concernant le Nigeria où des affrontements entre les forces de police et de jeunes manifestants se déroulent depuis plusieurs jours, avant d'impartir la bénédiction apostolique.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Passons à présent à la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Les tribunaux ecclésiastiques et des affaires juridiques au Burkina Faso ont effectué leur rentrée juridique. Des détails nous ont été donnés dans cette correspondance.
La commission épiscopale des tribunaux ecclésiastiques et des affaires juridiques a effectué sa rentrée juridique du 19 au 22 octobre. La première journée de cette rentrée 2020-2021 tenue à Ouagadougou a traité sous plusieurs facettes du thème de la fondation des instituts de vie consacrés des droits diocésains. Ainsi, plusieurs questions ont été passées au peigne fin et ont permis de comprendre que la vie consacrée naît, mûrit, grandit dans l'Église et pour l'Église. Selon le président de la dite commission, Mgr Laurent Dabiré, parce que la vie consacrée est une réalité entièrement ecclésiale et pour le bien de l'Église, il en découle une responsabilité de l'Église vis-à-vis de la vie consacrée. En présence des supérieurs majeurs et provinciaux des différentes congrégations conviées à cet atelier, il a été abordé la question de l'autonomie des instituts et voici ce qu'en retient Mgr Dabiré.
La question de l'autonomie, qui peut paraître une question épineuse, en fait ne l'est pas, si l'on comprend bien la nature de l'Église qui est communion, mission, communion dans la mission et la mission dans la communion, qui est charité. Et donc l'autonomie des instituts signifie un espace de liberté exigé par leur nature même afin qu'ils puissent vivre librement leur propre charisme, leur propre identité. Mais en même temps, l'insertion dans l'Église les conduit à être en communion, à être soumis au pouvoir des ordinaires en tant qu'institut religieux. Et s'il en est ainsi, dans le dialogue, la communion, la communication, toute difficulté qui surgit dans la collaboration peut trouver une solution heureuse.
Paul Da, Ouagadougou, Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, notre correspondant nous a rendu compte de l'ouverture de l'année scolaire au petit séminaire Saint-Charles Luanga de Katende.
Un petit séminaire a pour finalité de former de futurs prêtres. Le rappel a été fait par l'évêque de Kenge, Mgr Jean-Pierre Kouambamba, le dimanche 18 octobre. C'était le dimanche de la mission universelle et c'était le jour choisi pour l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021 au petit séminaire Saint-Charles Luanga de Katende. L'évêque de Kenge a présidé la messe d'ouverture.
C'est vrai que tout au long du cheminement et pour diverses raisons, on pourra changer d'orientation, mais on vient ici d'abord avec cette intention de devenir un jour prêtre dans ce diocèse de Kenge.
Sur les quelques 200 élèves du petit séminaire, confiés à une dizaine de formateurs bien sélectionnés avec toutes les ressources matérielles voulues, l'évêque de Kenge a eu une attention bien particulière pour ceux de première année.
Je voudrais leur demander de se sentir en famille. Il y en a même qui tentent de fuir. Dites-vous que désormais, votre maison, c'est ici.
Après une adresse du recteur du petit séminaire, M. l'abbé Trésor Nkaba, le bidel des élèves, Louis-Georges Lubamba, de la sixième année littéraire, a prononcé au nom des petits séminaristes un mot de remerciement, promettant notamment à l'évêque de profiter consciencieusement au mieux du cadre de formation du petit séminaire Saint-Charles Luanga de Katende. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Direction Bénin, où notre correspondant nous a informé de l'ouverture de la première session ordinaire des évêques du pays.
Les évêques du Bénin ont ouvert le dimanche 18 octobre 2020 dans l'Atakora, dans le diocèse de Natitengou, la première session plénière ordinaire de leur conférence épiscopale comptant pour l'année pastorale 2020-2021, qui prendra fin le mercredi 21 octobre 2020. C'était dans l'église cathédrale Saint-Sauveur de Natitengou au cours de la messe dominicale du soir, présidée par l'évêque de Lokossa, Mgr Victor Agbano, en présence de l'ensemble de ses homologues dont l'ordinaire du lieu, Mgr Antoine Sabibio, les archevêques de Cotonou et de Parakou, Mgr Roger Hungbedi et Pascal Onkwe, et Mgr Antoine Gagné, archevêque émérite de Cotonou. La méditation des textes de la liturgie de ce dimanche, journée mondiale de la mission, a permis à Mgr Agbano d'attirer l'attention des fidèles sur l'urgence de la mission aujourd'hui et dans la première arme.
Elle est un don de Dieu et elle se flétrit et s'appauvrit intrinsèquement si elle n'est pas mise au service de Dieu dans son Église. Qui que nous soyons, nous sommes le fruit de la mission, héritiers des missionnaires. Et c'est en cela que je vous adresse mon cri de cœur ce soir à vous les chrétiens de l'Atakora. Que nous fassions en sorte que d'autres soient nos héritiers et que tous ensemble nous puissions répondre au Seigneur. Me voici, envoie-moi.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, c'est l'archidiocèse de Gagnoa qui a été dédié à la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire.
L'archevêque métropolitain de Gagnoa a expliqué aux fidèles laïcs du Christ venus nombreux pour la circonstance avec des extraits de l'Évangile comment Marie, une jeune fille de 14 ou 15 ans, a pu accepter de coopérer au mystère du salut. Son attitude, sa disposition intérieure, son abandon total à Dieu, sa présence agissante au milieu des disciples, une manière implicite pour lui d'exhorter ses diocésains comme Marie à être des réceptacles du Saint-Esprit pour œuvrer à l'avancée de l'évangélisation dans ce diocèse. Et cela pourrait passer par la matérialisation de ses enseignements dans une vie de prière plus intense avec elle et surtout en ce mois qui lui est dédié. Poursuivant son exhortation, le prélat est revenu sur les raisons pour lesquelles il a choisi de consacrer son diocèse à Marie Notre-Dame du Rosaire. Monseigneur Yapo en veut pour preuve le nombre important d'édifices religieux, de communautés, d'établissements, d'institutions placés sous la protection de Marie dans son diocèse. Par cet acte de consécration de l'archidiocèse gagnois soutient le premier pasteur de cette église, Marie sera ainsi le cœur et l'épicentre de la vie pastorale, spirituelle, morale, humaine dans notre archidiocèse. Si elle est avec nous, c'est la victoire assurée sur le mal moral, physique et spirituel humain. C'est la victoire de la vie sur la mort et sur tout ce qui avilit l'homme, car avec Marie, nous avons le manuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? A fait remarquer l'archevêque métropolitain de Gagnoa. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au Cameroun, au moins 8 enfants ont été tués et une douzaine d'autres blessés samedi dans l'attaque de leur salle de classe dans une école. L'attaque a eu lieu à Kumba dans la région du sud-ouest. Vers 11h, heure locale, un groupe de 9 assaillants ont fait irruption dans le collège Mother Francisca International Bilingual Academy avant d'ouvrir le feu sur les élèves présents dans la salle de classe âgés de 9 à 12 ans. Les autorités au Nigeria ont tenté dimanche de mettre un terme au pillage d'entrepôts qui se multiplient dans le pays en dépit de l'instauration de couvre-feu, dernier incident en date, après 2 semaines de contestation populaire. Des habitants ont notamment pillé dimanche des provisions agricoles dans la ville de Jos, dans le centre du pays. La veille, plusieurs milliers de personnes avaient déjà envahi et pillé un immense entrepôt de nourriture. Aux Seychelles, le pasteur anglican Wavell Ramkalawan a remporté dès le premier tour la présidentielle, une victoire historique pour l'opposition dans un pays où tous les chefs d'État étaient issus de l'ancien parti unique depuis plus de 40 ans. Candidat de l'Union démocratique séchelloise, Union démocratique séchelloise, M. Ramkalawan a rassemblé 54,9% des voix contre 43,5% pour le président sortant Denis Faure et devient le 5e président des Seychelles. Le 3e candidat au scrutin, Alain Saint-Ange, a recueilli 1,6% des suffrages. L'opposition seychelloise remporte également les élections législatives organisées en même temps que la présidentielle de jeudi à samedi. L'Union démocratique seychelloise ayant obtenu à lui seul 25 sièges, soit les 2/3 du Parlement.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Les affrontements intercommunautaires qui se sont déroulés de lundi à mercredi à Dabou, à 50 km à l'ouest d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, ont fait 16 morts et 67 blessés, selon un nouveau bilan du gouvernement samedi, à une semaine de l'élection présidentielle. Le gouvernement a annoncé également l'interpellation de 52 individus et la saisie de 12 fusils et 70 machettes après ces incidents d'une extrême gravité. Notre émission continue avec la présentation de l'exhortation apostolique Querida Amazonia du pape François par le père jésuite Bahati.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous présentons le deuxième point du quatrième chapitre du document final du synode sur l'Amazonie intitulé « Une église qui prend soin de la maison commune en Amazonie ». Le document commence par faire sortir un premier point qui analyse la dimension socio-environnementale de l'évangélisation. Il rappelle qu'il nous incombe à tous d'être les gardiens de l'œuvre de Dieu. Les protagonistes du soin, de la protection et de la défense des droits de peuple et des droits de la nature dans cette région sont les communautés amazoniennes elles-mêmes. Dans ce scénario, affirme le document, le rôle de l'Église est celui de l'allié. Plus loin, le document affirme que les communautés amazoniennes ont clairement exprimé leur demande que l'Église les accompagne, qu'elle marche avec eux et qu'elle ne leur impose pas une manière particulière d'être, une manière spécifique de se développer, qui a peu à voir avec leur culture, tradition et spiritualité. Ce dont les communautés amazoniennes ont besoin est le soutien de l'Église, de manière que le rôle de l'Église soit de renforcer cette capacité de soutien et de participation. Selon les participants au synode, l'Église doit accorder une attention prioritaire aux communautés touchées par les dommages socio-environnementaux. Elle doit poursuivre la tradition ecclésiale latino-américaine, où des pionniers de l'évangélisation ont montré que la défense de peuples originaires du continent est étroitement liée à la foi en Jésus-Christ et à sa bonne nouvelle. Les participants au synode expriment un souhait en ces termes. Nous voulons une église qui navigue à l'intérieur des terres et se ferait un chemin à travers l'Amazonie en promouvant un style de vie en harmonie avec les territoires et en même temps avec le bien-être de ceux qui y vivent. L'église choisit de défendre la vie, la terre et les cultures premières amazoniennes. Cela impliquerait d'accompagner le peuple amazonien dans l'archivage, la systématisation et des informations sur les territoires et leur statut juridique. Selon les documents finaux du synode, la priorité est au plaidoyer et à l'accompagnement pour parvenir à la délimitation des terres. La doctrine sociale de l'Église, qui s'occupe depuis longtemps de la question écologique, s'enrichit aujourd'hui d'une vision plus globale de la relation entre le peuple amazonien et leur territoire, toujours en dialogue avec les savoirs et leur sagesse ancestrale. Analysant le second point, qui traite de l'Église pauvre avec et pour les pauvres, des périphéries vulnérables, les participants au synode s'engagent en ces termes. Nous réaffirmons notre engagement à défendre la vie dans son intégralité, de sa conception à sa fin naturelle et la dignité de toutes les personnes. Selon leur observation, l'Église a été et est toujours aux côtés des communautés autochtones pour sauvegarder leur droit d'avoir une existence propre et paisible, en respectant les valeurs de leur tradition, de leurs coutumes et de leur culture. La préservation des rivières et des forêts, qui sont des espaces sacrés, sources de vie et de sagesse. Les participants au synode sur l'Amazonie appuient les efforts de tant de personnes qui défendent courageusement la vie sous toutes ses formes, à toutes les étapes.
Le magazine de l'engagement de la femme au sein de l'Église et dans la société avec Françoise Niamien.
Notre magazine sur l'engagement de la femme au sein de l'Église et dans la société revient sur la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale qui a eu lieu le 15 octobre dernier. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à redoubler d'efforts pour aider à surmonter la pandémie de COVID-19 qui affecte la moitié d'entre elles. Les femmes rurales jouent un rôle essentiel dans l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, le renforcement de la résilience face au changement climatique et la gestion des ressources foncières et naturelles. Cependant, nombre d'entre elles sont victimes de la discrimination, du racisme systémique et de la pauvreté structurelle, a fait remarquer M. Guterres. La pandémie de COVID-19 touche à présent plus de la moitié des agricultrices dans le monde du fait des restrictions de déplacement, de la fermeture des magasins et des marchés et de la désorganisation des chaînes d'approvisionnement. Confrontées en plus à des problèmes comme l'accumulation des soins et des travaux domestiques non rémunérés et l'aggravation de la violence fondée sur le genre, les femmes rurales portent les fardeaux les plus lourds de la pandémie, a fait noter le secrétaire général de l'ONU. Le numérique peut constituer une bouée de sauvetage dans les zones rurales en renseignant sur l'accès aux soins de santé et en tenant les personnes au fait de l'actualité agricole. Toutefois, les disparités entre les sexes dans le domaine du numérique sont particulièrement criantes dans le cas des femmes rurales qui ne constituent qu'un quart des utilisateurs de solutions agricoles numériques, a aussi souligné M. Guterres dans son message. Pour aider les femmes rurales à faire face à la pandémie et renforcer leur résilience pour l'avenir, M. Guterres estime que la solidarité et le soutien de tous sont nécessaires. En outre, pour le secrétaire général de l'ONU, l'accès aux soins de santé, à la protection sociale et aux services d'information agricole dont ont besoin les femmes rurales nécessite un investissement d'ensemble. Nous devons combler la fracture numérique et assurer des services essentiels pour faire face à la pandémie de violence à l'égard des femmes. Et nous devons nous attaquer aux lois et pratiques discriminatoires en matière de propriété foncière et de succession qui exposent les femmes rurales au risque de perte de sources de revenus, a encore soutenu M. Antonio Guterres. En cette journée internationale des femmes rurales, renouvelons notre engagement en faveur des femmes rurales dans toute leur diversité, redoublons d'efforts pour les aider à surmonter la pandémie de COVID-19 et employons-nous en collaboration avec elles à les rendre résilientes face à des crises futures, a conclu le secrétaire général de l'ONU.
La parole à Camille Moukosso pour la revue de la presse catholique d'Afrique.
Poursuivre la vocation de soulager les misères, c'est ce qu'a titré la Croix du Bénin dans ses colonnes de l'édition du vendredi 23 octobre dernier, et c'est par là que nous ouvrons ce nouveau numéro de la revue de presse catholique africaine. Le centre de santé à vocation humanitaire Saint-Luc célèbre ses 30 ans de vie, peut-on lire, après s'être dévoué aux soins des personnes et au bien-être de l'homme. Dans le cadre des festivités, plusieurs cérémonies ont été organisées, une journée de porte ouverte, des échanges, débats sur la doctrine sociale de l'Église et une messe d'action des grâces en l'église Sainte Rita de Cotonou au Bénin. Personnel et malades, invités, médecins, infirmiers, litant encore, ont participé aux festivités des Nonces de Perles et de l'hôpital Saint-Luc. La Semaine africaine, le bi-hebdomadaire d'information et d'action sociale de la Conférence épiscopale de la République du Congo, Congo-Brazzaville, a fait mention dans sa publication du vendredi 23 octobre dernier de la célébration de la Journée mondiale de la canne blanche, célébrée le 15 octobre de chaque année. L'ONG Vient et Voix, lit-on, s'est jointe au reste du monde pour commémorer la 24e édition dédiée aux aveugles en République du Congo, Congo-Brazzaville. La cérémonie a réuni environ une cinquantaine de participants venus des différents quartiers de la capitale dans le respect de mesures barrières. L'inculturation nous épargne de l'idée de renoncement à nos religions traditionnelles, c'est ce qu'a titré la Croix Africa dans son édition du vendredi 23 octobre dernier. Le renoncement à nos religions traditionnelles équivaudrait à nous couper de notre culture, lit-on. Le Christ lui-même n'avait jamais renoncé à sa tradition. Il allait dans des synagogues pour prêcher la parole des dieux en s'insurgeant contre les conservateurs irrationnels qui voudraient que la tradition soit vécue d'une manière abusive. Chaque être humain est toujours lié à sa tradition, à sa culture, voire sa religion. La Croix de Madagascar est revenue dans son édition du dimanche 18 octobre dernier sur l'aide apportée aux personnes vulnérables, lancée par la SALFA, une organisation qui regroupe 10 hôpitaux luthériens de Madagascar et 40 unités de santé. Le projet Liton se compose des trois grands volets. Premièrement, l'éducation inclusive, consistant à mettre en ligne une plateforme éducative en ligne pour permettre aux enseignants de s'y former, de créer un réseau et de donner des cours à distance. Le deuxième volet, peut-on encore lire, est celui de la santé, avec comme objectif la dotation en matériel, équipement de protection individuelle, médicaments à 9 centres de santé de base et cliniques. Le dernier volet est consacré aux moyens de subsistance, c'est-à-dire appuyer les initiatives d'activités génératrices de revenus pour les personnes handicapées après qu'elles aient suivi une formation pour se prendre en charge.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboislo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivie. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.